En 2020, en France, 106 personnes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Parmi elles, 90 étaient des femmes. Si depuis quelques années, des mesures ont été prises pour lutter contre les violences faites aux femmes, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les crimes au sein des couples ont bénéficié de l'indulgence des tribunaux. Ils étaient considérés comme des crimes passionnels, un terme insupportable pour les familles de victimes. Car à l'évidence, on ne tue pas par amour. On tue par amour propre, par jalousie et par possession. Comment une histoire qui débute avec de l'amour peut-elle tourner au drame? Et d'où vient cette violence? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire d'Aimé. Sa vie a basculé quand son ex-compagnon, amer d'avoir été éconduit, a décidé du pire. Il lui fera vivre un enfer. Je suis Olivier Delacroix. Bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Aimé a vécu un drame qui dépasse le supportable. Après la séparation, les représailles. Pour se venger, Jacques, le compagnon éconduit, a choisi de s'en prendre à sa fille. Elle s'appelait Kildine, elle avait 16 ans lorsqu'il l'a abattue de deux coups de fusil. Lorsqu'elle rencontre cet homme de 53 ans, Aimé élève seule ses deux enfants. Il ne lui plaît pas plus que ça, pas de coup de foudre entre eux, mais plutôt une relation basée sur une amitié réciproque. Aimé et Jacques sont amenés à se voir de plus en plus souvent, car c'est Kildine, passionnée d'équitation, qui entraîne sa mère. Jacques est toujours prêt à l'accueillir pour que la jeune fille puisse monter un de ses chevaux.
Il me semble que quand vous l'avez rencontré, vous étiez bien loin de penser que cette relation allait évoluer.
Oui, parce qu'il ne représentait pas... Nous n'avions, lui et moi, rien en commun. Oui. Parce que je n'étais pas une passionnée par l'équitation, c'était au travers du regard de ma fille. Mm-hmm. Donc moi, je n'avais rien à partager avec lui.
D'accord.
Et puis après, malgré tout, eh bien, il était aussi très proche de la nature. Et moi-même, je suis très proche de la nature et ça nous a unis.
Comment cette relation a-t-elle évolué? Est-ce que tout de suite, vous êtes devenus très amis et d'amis, vous êtes passés à...
On était... Kildine et moi étions beaucoup chez lui.
Oui.
Kildine amenait même ses amis qui D'accord. montaient également. Donc, il y avait véritablement une osmose. On était tous bien ensemble.
D'accord.
Moi... Parce que ma fille s'y plaisait, donc j'étais heureuse pour ma fille, c'était vraiment l'apothéose. Et donc voilà, tout s'est fait petit à petit, et puis ben après on a eu une relation.
Ouais.
Et puis nous n'habitions pas dans la même commune du tout.
Mm-hmm.
Il y avait une distance de 30-45 minutes. Et donc, il est venu s'installer chez moi. Bien sûr, je lui ai ouvert la porte, je ne l'ai pas repoussé.
Mais il est venu s'installer chez vous parce qu'en fait, naissait un amour entre vous?
Alors, je le dis encore maintenant, j'avais beaucoup de compassion. Mm-hmm. Il m'avait raconté sa jeunesse, il m'avait raconté ses histoires passées. C'est un homme qui avait, d'après ce qu'il me racontait, souffert. Et ça m'a touchée profondément. Ouais. Ça m'a touchée profondément. Donc, peut-être suis-je tombée amoureuse du fait qu'il m'ait raconté sa douleur, ça m'a bouleversée et mon cœur s'est envolé, je pense.
Ouais.
Pourquoi pas tranquillement finir ma vie avec un homme qui était gentil.
Ouais.
Voilà, j'aspirais au bonheur comme tout le monde,
bien sûr.
Surtout pour mes enfants.
Mm-hmm.
De son passé douloureux, on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'il avait quitté l'école très jeune. Dans le village, on le décrit tantôt comme un homme doux, tantôt comme un marginal vivant au milieu des animaux et d'un incroyable bric-à-brac. Jacques tombe très vite éperdument amoureux d'Aimé, de 14 ans sa cadette.
C'est une relation qui est devenue tumultueuse,
chaotique
assez rapidement.
J'ai découvert qu'il...
À cause de l'alcool.
Ah, complètement.
Quel comportement avait-il quand il buvait, en fait? Est-ce que c'était un homme violent ou...
Alors, la violence, il ne l'exprimait pas avec nous. Il avait pour façon de faire, il le reconnaissait à lui-même, de sortir dehors.
D'accord. Se calmer.
Voilà, voilà, sortir, aller voir ses animaux, parce qu'il savait que s'il restait, Il était violent.
D'accord.
Donc il préférait sortir, mais il en avait bien conscience.
Quand avez-vous décidé de mettre un terme à cette relation ?
Ben, sur 3 années de vie commune, entre guillemets, nous nous sommes séparés 4 fois. Peut-être une fois par an, et la dernière année un peu plus, 2 fois.
Mais bon, oui, donc c'était une relation assez tumultueuse, en fait.
Oui. C'était pas une relation, comme on pourrait appeler ça, une relation de couple.
À plusieurs reprises, vous l'aviez menacé de rompre, ou c'est arrivé d'un seul coup ?
Non, c'était pas d'un seul coup. C'est lorsque, tout bêtement, lorsqu'il buvait plus qu'il n'aurait fallu,
ouais.
Si on peut dire qu'on peut boire, je lui disais, va-t'en, prends tes affaires, va-t'en. Lorsqu'il terminait la bouteille le soir, j'avais mes 2 enfants qui étaient là, on était tous... Que faire,
ouais.
Et ben je lui disais, prends tes affaires, va-t'en. Donc plusieurs fois, je lui ai dit, prends tes affaires, va-t'en.
C'est une anecdote racontée par Jacques qui va tout faire basculer. Lors d'une soirée arrosée, il lui avoue qu'il a tenté de se suicider avec ses 2 propres enfants en allumant le gaz lorsque sa première épouse a voulu divorcer. Aimé prend peur et décide de le quitter définitivement.
C'est à partir de là qu'il a radicalement changé de comportement vis-à-vis de vous et de vos enfants.
Oh oui, c'était l'enfer. Hein. Parce qu'il avait commencé à me harceler au téléphone, à venir m'attendre chaque midi à mon bureau, parce que bien qu'il ait compris que la décision était radicale,
qu'on ne se remet...
Peut-être espérait-il tout de même que j'allais revenir sur ma position. Mmh.
À quel moment les menaces sont venues très claires ?
C'est monté en puissance. Tout d'abord, c'était « je me suicide ».
Et ça va être de ta faute ?
Oui, et voyant que je n'avais pas de réaction, simplement lui dire que ça n'en valait pas la peine pour... Il y a d'autres femmes, il y a d'autres personnes, il pouvait en rencontrer... Que nous, ça n'allait pas, que c'était pas un échec, ça n'allait pas. On mettait pas sa vie en question. Mais pour lui, si, c'était très important.
Ouais.
Vraiment, lui, c'était le point faible. Et donc, il a quand même tout de même compris que je resterais sur ma position. Donc, il a amplifié le geste, c'est-à-dire qu'il a...
Voyant que ça ne marchait pas.
Voilà, il m'a dit qu'il emporterait ma fille.
Mmh.
Ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. C'est tout. C'était le midi au travail, justement. Voilà.
Les jours passent et Jacques continue de persécuter Aimé. Un jour, sur le quai d'une gare, il l'agresse physiquement. Désespéré à l'idée qu'elle ne veuille plus le voir, il lui envoie une carte postale dans laquelle il la menace de mort, ainsi que Kildine, sa fille.
« Tu es une criminelle. Je vais préparer le fusil avec 3 cartouches de chevrotine. Une pour Kildine, une pour moi. Reste une cartouche. »
À plusieurs reprises, elle alerte la gendarmerie sur ses menaces de mort récurrentes, main courante, dépôt de plainte. Son ex-compagnon est bien connu des forces de l'ordre. Aimé souhaite qu'il soit enfin mis hors d'état de nuire.
J'avais espoir que les gendarmes l'interpellent. Chaque jour, je me dis, ils vont l'interpeller. Et puis, ils vont voir qu'il a des armes, qu'il a un passé qui est quand même récurrent.
Avez...
Mais je leur ai dit, chez lui, il y avait toutes les preuves de ce que j'annonçais.
Et ils n'ont pas bougé.
Ils n'ont pas bougé.
Alors, le scénario machiavélique va aboutir à l'issue tant redoutée. Le drame. Le 27 août 2006, Jacques passe à l'acte. Embusqué, il guette Kildine au bord d'une route, armé d'un fusil.
Kildine devait se rendre à son travail saisonnier. Elle était jeune, mais elle avait obtenu une dérogation pour travailler avant l'âge légal.
Elle s'apprêtait donc à partir à son travail ?
Elle était partie. Elle ne m'avait pas appelé. J'ai essayé de l'appeler, son téléphone n'a pas décroché alors qu'elle aurait dû être en poste.
Mmh.
Donc, je suis désolée.
Non, mais...
Donc, j'ai écouté mes messageries. Parce que peut-être que Kildine m'aurait laissé un message que je n'aurais pas vu que je n'aurais pas entendu sonner.
Ouais.
J'ai écouté ma messagerie et là, c'est lui qui parlait. pour m'annoncer qu'il avait tué Kildin. Alors il me l'a pas dit comme ça, il m'a dit ta fille était allée au travail où elle devait se rendre. Et là, j'ai... Comme toute maman, j'aurais pu avoir un espoir qu'elle soit encore en vie. Mais je savais qu'elle était morte. Donc je m'y suis rendue. Voilà. Même les pompiers sont arrivés apparemment trop tard.
Vous avez tout de suite dit que c'était lui.
Moi, j'ai dit que c'était lui, qu'il fallait vite aller chez lui. Ouais. Parce que j'avais... Je savais qu'il avait tout organisé, ouais. Mais je savais pas. J'ai dit c'est lui. J'ai dit c'est lui, allez vite chez lui. Et donc on.
Allez vite chez lui pour bah l'attraper
non,
ou
justement, je savais qu'il s'était pas raté cette fois-ci parce qu'il me l'avait tellement dit.
Ouais.
Le temps a passé et on m'a annoncé vers 10h. 10 heures, qu'il avait retrouvé chez lui et qu'il était mort. Donc, c'est à ce moment-là que, intérieurement, j'ai pris la décision d'arrêter de vivre. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, je voulais partir. C'est un état où on veut... C'est... inhumain, la douleur. C'est... Et après, ils m'ont emmené, je sais plus, j'ai dormi pendant 2 jours et voilà.
Aimé sortira de l'hôpital très vite pour reprendre son travail et tenter de survivre. Son fils plonge dans la dépression. Il cesse ses études d'ingénieur pendant plus d'un an avant de pouvoir reprendre une scolarité normale. Aujourd'hui, je retrouve Aimé chez elle. Elle me raconte comment elle a découvert que le meurtrier de sa fille n'a absolument rien laissé au hasard.
Olivier.
Mais...
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Ce 27 août, cette date du 27 août correspond à quelque chose de précis ?
Très proche d'une date. En fait, le 30 août, j'allais avoir 40 ans. Et il voulait vraiment que tout soit inscrit. Après son départ, donc il voulait que ma fille, il a écrit tout cela parce que je n'aurais jamais pu l'imaginer, dans son journal intime, il a écrit qu'il ferait en sorte que ma fille serait enterrée le jour de mon anniversaire. C'est le pourquoi de la date.
Vous avez eu accès à ce journal intime hein, qu'il tenait ?
Il me l'a lui-même envoyé le jour du drame.
C'est terrible.
J'ai du mal à dire tuer Kildin. Il a emporté Kildin. Et avant lui-même de retourner chez lui pour se suicider, il a déposé, on le voit avec le cachet de la poste, tout un ensemble de cartes postales où l'on peut voir l'esprit pervers car elles ont toutes des images de chevaux. Et donc il joue aussi avec ça dans son écrit. Les chevaux en rapport avec Kildin. Donc tout était vraiment bien prémédité. Ouais. Et donc il a posté pour que lorsque je rentre chez moi après le drame, je puisse récupérer ses écrits. C'est un journal de bord de chaque jour. Chaque jour, il met l'heure à laquelle il se lève, ce qu'il fait dans la journée et comment il prépare le drame. Parce qu'il y a même la phase que je n'aurais pu ne pas connaître, c'est-à-dire... la préparation de l'arme, il me fait une description pour que je...
Très détaillée.
Voilà, je n'ai pas pu lire, de toute façon, ce journal. Je l'avais lu en diagonale parce que je l'avais sous les yeux. Mais je ne l'ai lu que quelques années après. Je n'ai pas pu... Je ne voulais pas savoir. Je voulais savoir sans savoir.
Je quitte Aimé très ému par le courage et la force de cette mère. Mais quand même avec le sentiment que ce drame aurait pu être évité si les gendarmes avaient agi face aux menaces de Jacques. Aujourd'hui, elle mène un combat pour faire modifier la législation sur les armes à feu en mémoire de sa fille, Kildin. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.